Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Attention, moment de transgression sur Europe 1. En ce début d'après-midi, Franck Ferrand a choisi de faire une entorse à la règle. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Cette saison, vous me direz.
Tout à fait.
J'ai par principe, c'est la moindre des choses, de ne pas parler dans l'émission de mes propres livres. Mais aujourd'hui, puisque je n'ai fait que participer modestement parmi 11 auteurs à un ouvrage collectif, eh bien je me suis dit que nous pouvions faire une petite exception.
Alors l'ouvrage en question s'intitule « J'ai le nôtre, le grand historien de la petite histoire ». Il est publié chez Lattès.
Eh oui, vous avez bien dit « J'ai le nôtre », Julia, n'est pas « Georges le nôtre », comme on l'entend souvent, à tort. En vérité, ce journaliste, historien, académicien sur le tard de la Belle Époque s'appelait Théodore Gosselin et dans son nom de plume, le « G » vaut pour Gosselin. On l'appelait de son vivant le pape de la petite histoire et il est un de ces grands auteurs qui ont fait aimer l'histoire aux Français. Et je n'ai pas peur de dire que si nous sommes là tous les jours à 13h, c'est aussi un peu grâce à lui. Il était donc bien normal que nous lui consacrions cet hommage.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
La première fois que j'ai croisé Clémentine Portier-Kaltenbach, ce sont des rencontres qu'on n'oublie pas, c'était il y a des années maintenant sur un plateau de télé, nous nous sommes mis à parler tout naturellement de Le Nôtre et du rôle qu'il avait eu dans notre goût respectif pour l'histoire. Le Nôtre, alors attention, pas le jardinier, l'historien qui du reste était lointainement apparenté au jardinier, d'emblée nous nous étions trouvés cette sensibilité commune au point de nous retrouver quelque temps plus tard sur la tombe de l'écrivain au cimetière de Picpus. Or, en parlant autour de nous de Gosselin Le Nôtre, nous allions bientôt constater que nous n'étions pas les seuls, loin s'en faut, à devoir une part de notre vocation, de notre passion pour l'histoire, au texte truculent de cet auteur, à la fois dénicheur d'archives inédites et incomparable trousseur d'anecdotes. Notre ami commun, Adrien Goetz, certains habitués de nos rendez-vous au cœur de l'histoire, notamment Bruno Fulini, Thierry Lenz ou Philippe Charlier, qu'il se passionne pour l'histoire de l'art, la Troisième République, le Premier Empire ou la médecine légale, tous avaient partagé notre ravissement pour le curieux, pour l'indiscret et amusant Monsieur Le Nôtre. On devrait écrire un livre d'hommage, nous répétait Clémentine. Et les semaines passant, elle continuait d'élargir le cercle des amis de Le Nôtre, si l'on peut dire. Le prince Michel de Grèce, Emmanuel de Varesquiel, Frédéric Lenormand, Guy Stavridès, Michel Crépu. L'idée a fait son chemin et l'année dernière, nous nous sommes mis en quête chacun de son côté de textes signés Le Nôtre où s'illustrait à notre avis tout le talent de cet auteur. Je dis le talent parce que j'ose pas dire le génie, mais ce dont nous parlons relève à tout le moins du grand talent. Non seulement J'ai le nôtre n'a pas son pareil pour dénicher dans les fonds d'archives et dans les publications anciennes ou nouvelles ce qu'il y a de plus vivant, de plus piquant à propos de toutes sortes de personnages de l'histoire, connus ou inconnus, mais il est par ailleurs imbattable pour donner à ces personnages et aux faits qu'ils racontent tout leur relief. Car le secret de Le Nôtre, c'est son style, sa patte, cette façon tellement personnelle qu'il a de faire tenir la langue en suspens et de susciter l'attente chez les lecteurs. Octave Aubry, André Castelot qui m'en parlait souvent, Alain Decaux bien sûr, tous les écrivains d'histoire, pour employer une appellation d'Aubry reprise par Decaux, savent ce qu'ils doivent à Gosselin Le Nôtre et tous les amoureux de ce qu'on appelle souvent avec mépris la petite histoire, c'est-à-dire les aspects personnel, vécu, quotidien, le revers humain et vivant de la noble et barbante tapisserie historique des dictionnaires et des thèses, tous ceux qui cherchent la passion amoureuse derrière la bataille, ou à son origine, le ressentiment familial derrière l'engagement politique, le facteur humain dans les soubassements de l'acte public, tout cela ont conscience de lui devoir quelque chose. Aujourd'hui donc, le joli projet de Clémentine Portier-Kaltenbach a vu le jour. 11 auteurs dont votre serviteur, 11 historiens aux formations, aux prédilections diverses, ont sélectionné, dans l'immense corpus des textes de Le Nôtre, de véritables petits bijoux d'érudition réjouissante, qu'ils ont présentés et commentés, avec l'espoir de faire découvrir ou redécouvrir ce grand auteur d'hier, et de lui constituer pour demain une nouvelle génération d'adeptes. on lit, on collectionne, j'ai le nôtre, mais avant tout, on l'aime, s'exclame notre Clémentine dans sa belle introduction. Jamais ses lecteurs ne l'évoquent sans une sorte de jubilation teintée d'affection, comme s'il avait été pour chacun d'eux une sorte de grand-père supplétif dont les récits imagés et vivants avaient ensoleillé la jeunesse. Son intuition du passé, son érudition, son talent inné pour faire revivre les épisodes et les personnages fameux ou anonymes de notre histoire, sa bonhomie, son humour et jusqu'à sa physionomie rubiconde lui confèrent une place particulière au panthéon des conteurs. Il fait partie de ces merveilleux passeurs auxquels nombre d'entre nous doivent d'avoir aimé l'histoire. Clémentine est avec nous, bien entendu, dans ce studio, mais aussi Frédéric Lenormand, dont les romans policiers et historiques s'arrachent, et Emmanuel de Varesquiel, qui d'habitude vient plutôt nous parler de Talleyrand. Tous les quatre, nous avons une heure maintenant pour faire de vous, si ce n'est déjà le cas, des adeptes du bon papy le nôtre.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Un extrait sur Europe 1 de la Fauvette d'André Guétry pour accueillir vos complices, amoureux comme vous de J'ai le nôtre, le pape de la petite histoire. Nous sommes en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach, Emmanuel de Varesquiel et Frédéric Lenormand. Franck.
Bonjour à tous les trois. Alors, évidemment, ça aurait été amusant qu'on soit les tous les 11 pour parler de le nôtre, mais d'abord il aurait fallu qu'on s'installe dans un autre studio d'Europe 1, beaucoup plus grand, avec plus de micros.
Le Merlin.
Et puis surtout, il aurait fallu un peu plus d'une heure, parce que alors si chacun devait donner son souvenir personnel de le nôtre. Ce qui est amusant, c'est que Frédéric Lenormand disait là, pendant la publicité, que ce personnage essentiel de Voltaire, hein, dont il fait l'enquêteur de ses romans, on va dire, il l'a découvert, vous l'avez découvert grâce à le nôtre.
Oui, grâce à l'un des livres de le nôtre qui s'appelle Existence d'artiste, où il passe en revue des écrivains célèbres. Et il donne cette anecdote extraordinaire de Voltaire qui recueille la dernière descendante du nom de Corneille et qui l'élève et en fait la parfaite fiancée des Lumières. J'ai écrit un roman là-dessus. Et après ça, je me suis passionné pour Voltaire, ce qui m'a mené tout droit aux enquêtes à ma série policière Voltaire Mène l'enquête.
Voltaire était tellement fasciné par Corneille qu'il voulait absolument croire que cette jeune femme était la nièce de Corneille, alors que c'était un peu plus compliqué dans la réalité, mais
oui, c'était
évidemment
une arrière-petite nièce collatérale.
Mais elle était celle qui sanctifiait les tragédies de Voltaire. Et ça, bien entendu, c'est exactement le genre de petits détails croustillants qui plaisaient à le nôtre. Nous devons tous quelque chose à le nôtre, Emmanuel de Varesquiel. Il est en quelque sorte un moteur, un accélérateur de particules pour les historiens.
Le nôtre, ce sont les fonds de bibliothèque de nos grands-mères.
C'est ça.
Moi, je l'ai lu à 14 ou 15 ans à la campagne. Toute la série des vieilles maisons, vieux papiers, la série du Paris révolutionnaire était là, soigneusement reliée, soigneusement rangée dans la bibliothèque de ma grand-mère. Et j'ai lu ça avec délice, évidemment. Il faut passer par le nôtre et puis ensuite, il faut peut-être un peu l'oublier. Le nôtre a quantité de qualité, à commencer par une extraordinaire qualité d'écrivain, de plume, mais du point de vue de l'historien que j'espère être, que j'essaie d'être, il n'est pas vraiment un historien.
Il est ce qu'on appelle, ce qu'Octave Aubry appelle un écrivain d'histoire,
hein,
précisément. Alors, il faut, on sait que sa fille, Thérèse, a écrit sur son père. Lui-même n'a pas fait sa propre histoire. On aurait adoré ça, Clémentine. La vie de le nôtre par le nôtre, ce serait...
Ah, certainement. Mais les souvenirs de sa fille, Thérèse, sont extrêmement touchants. C'est un livre qui a d'ailleurs été réédité. Alors là, on jubile de constater que dès l'enfance, c'est un rigolo. Il adore se costumer. Il est le joyeux de rire de sa famille, et puis on comprend aussi...
C'est un rigolo, pardon, mais sauf qu'il est en Lorraine, et que alors qu'il a 14-15 ans, va arriver le grand événement.
C'est certainement l'un des ressorts de sa passion pour les lieux, pour les objets à histoire, parce que lui-même a vécu cet arrachement à sa Lorraine natale, puisqu'il vivait donc à Metz, les Gosselins, son père était directeur des douanes, lui-même, Théodore, né au château de Pépinville, hein, près de Thionville, et donc, il doit s'arracher à sa ville au moment de la guerre de 70. Toute la famille part à Nancy. On ne défait d'ailleurs pas les bagages parce qu'on est convaincu que tôt ou tard, eh bien, on va se réinstaller à Metz. Ça ne sera pas le cas, d'ailleurs, pour notre plus grand plaisir, car j'ai le nôtre va habiter 57 ans rue Vanneau à Paris, et toutes les vieilles maisons, vieux papiers, le Paris sous la Révolution, les portraits de Parisiens, etc., Paris qui disparaît, tous ces titres-là, tellement jolis, tellement drôles, tellement érudits, et oui, qui parfois frôlent le roman, mais moi je dois dire, c'est ce que j'aime précisément chez le nôtre, c'est aussi cette capacité à rajouter le petit zeste et le petit conditionnel qui fait qu'on imagine les scénarios les plus hypothétiques, mais aussi les plus amusants, les plus intéressants.
C'est un homme qui avait le sens des lieux et de l'esprit des lieux. Il se rendait systématiquement dans les décors d'origine hein, des différentes
Alors
histoires
ça,
qu'il raconte.
Je pense que là aussi, c'est probablement une chose qui nous est commune à tous, c'est que le nôtre aime voir ce dont il parle.
Voilà.
Donc, si le jour où il a visité le château de Versailles, il en rêvait depuis son enfance à Metz, où il collectionnait tout ce qui avait trait à Versailles, eh bien, il part de Paris et il va à Versailles à pied, parce qu'il veut profiter de ces deux heures, trois heures de marche jusqu'à Versailles pour profiter pleinement de la jubilation à venir en découvrant le château. Quand il va raconter la nuit à la fuite à Varennes, il se lève le même jour, le 21 juin. Voilà, il est toujours, il se place dans les conditions de ses héros.
Et il revit un soir de 21 juin, il parle exactement comme la berline à 1h du matin, et il va faire le même trajet. Alors, comment travaillait-il? Quelles étaient ses sources? Et surtout, bien entendu, d'où lui vient cette capacité incroyable à faire naître et renaître des figures du passé? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Plus. Franck Ferrand sur Europe 1.
Et je rappelle qu'aujourd'hui, sur Europe 1, nous nous intéressons à votre idole, Franck. Il s'agit de Jean le Nôtre, le pape de la petite histoire.
On a vite fait des idoles, mais oui, c'est vrai que c'est un peu notre père tutélaire à tous ceux qui racontons la petite histoire et faisons revivre la chronique. Je l'ai là sous les yeux, sur la couverture de l'ouvrage qui est paru chez Lattès, avec ces espèces de bacchantes énormes qui lui barrent le visage, et puis un toupet, enfin ce sont ses vrais cheveux, mais alors extrêmement bouclé, qui lui donnait un petit air de famille avec Alexandre Dumas, quelque part.
On ne peut que l'aimer. Moi, il me fait penser aussi à Christophe, le dessinateur du Sapeur
oui,
Camembert.
Oui, c'est très juste.
Regardez, je trouve que c'était bien de choisir cette photo où le nôtre est dans la force de l'âge, de pas choisir celle où il est déjà un très vieux monsieur.
Oui,
et là, on l'imagine arpentant les rues de Paris, allant un jour chercher la tombe de Mirabeau, le lendemain il assiste à l'exhumation de Voltaire et Rousseau au Panthéon, le
on
troisième
jour... On se demande bien qui serait capable aujourd'hui d'aller faire ça, d'aller deux tombes en exhumation.
Oui, mais voilà, c'est vraiment... il est à la fois un homme d'archives, de documents, il passe tous ses après-midi aux archives, mais dans la journée, il se balade, il veut voir où habite Danton, la vue qu'avait Danton depuis sa
Alors,
cuisine.
Oui, ça, c'est amusant, parce que c'est sa fille qui raconte ça, mais il va sonner à la porte de l'appartement, parce que c'est très intéressant ça, mais nous, quand nous parlons de la période révolutionnaire, ça fait partie... Alors certes, c'est encore et encore, ça dépend des écoles historiques maintenant, hein, depuis quelques années, mais on peut considérer que ça fait partie de l'histoire contemporaine, même si de plus en plus d'historiens font désormais démarrer l'histoire contemporaine en 1870. Mais pour le nôtre, c'est de l'histoire très contemporaine. Et donc l'appartement de Danton,
il existe encore.
Et donc il sonne et il tombe en plein dans une communion.
Dans une première communion. Alors on l'invite à boire un verre et alors il veut absolument aller voir la vue que Danton avait depuis sa salle à manger. Il fait la même chose rue du Faubourg Saint-Honoré pour voir où habitait exactement Robespierre.
On va en parler justement.
Il veut
tout
vraiment
à l'heure, ça,
décrire avoir été dans les lieux qu'il décrit dans ses livres.
Et aux archives, il a sa place réservée parce que il a un rythme de vie comme tous les bons écrivains bien réglé. Il a un rythme de vie parfaitement militaire. Les matins sont consacrés aux promenades, aux découvertes. Il dit qu'il est l'homme de France auquel on aura le plus souvent claqué la porte
oui.
au nez. Hein. C'est parce qu'évidemment, ça n'amuse pas tout le monde. Ceux qui viennent comme ça exhumer l'histoire. Et puis l'après-midi, ce sont les archives parce que on a de le nôtre une image parfois un peu douteuse. On voudrait en faire un simple chroniqueur, presque un écotier. En vérité, c'est un homme de l'archive qui travaille dans et pour l'archive et qui a écumé un nombre de cartons absolument phénoménal dans son existence.
Oui, vous aviez fait d'ailleurs, Franck, une émission, une très belle émission sur les archives où nous avions cité le nôtre, comparant ses archives à un océan et lui se comparant à un naufragé sur une coquille de noix et espérant apercevoir enfin la terre. galère et noyé sous un flot d'archives et décrivant cette jubilation lorsqu'on est face à toute cette matière à éplucher et ce sentiment de désespoir qui vous atteint quand on a l'impression d'avoir ouvert un robinet, je crois que c'est la description qu'il en donnait, et finalement on est submergé par cette matière. Et vous le disiez, aux archives il avait sa place, et lorsqu'il n'y était pas, eh bien les fonctionnaires des archives disaient « Oh là, c'est la place de Monsieur Lenôtre » et nul n'osait s'y asseoir. Il y avait une espèce de révérence mais qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Mais en effet, Emmanuel le disait tout à l'heure, la génération de nos grands-parents a adoré Lenôtre, et c'est tous ces ouvrages, une centaine, ont été réédités des centaines de fois les uns les autres, et donc tout le monde le connaissait et tout le monde le lisait.
Il prenait des notes extrêmement pointues sur tous les petits détails. Il disait qu'avec la matière de notes qu'il emmagasinait pour chaque ouvrage, il aurait pu en écrire plusieurs, en vérité.
Oui, oui. Mais au demeurant, d'où je pense tout l'intérêt de signaler par des textes de prédilection ce dont est capable Lenôtre et à quel point sa lecture est jubilatoire. Parce que certains de ses livres, parfois des portraits ou nos français, ont peut-être un peu pris la poussière, il faut bien le dire, et d'autres pas du tout, sont restés tellement...
Il faut d'ailleurs distinguer les recueils d'articles parus, que ce soit dans Le Temps, dans Le Figaro, de l'époque,
Le Monde Illustré,
etc. Et puis les véritables études qu'il menait, qu'il rassemblait, évidemment en priorité sur la période révolutionnaire, mais pas seulement, il faut le dire. Moi d'ailleurs, je me suis amusé dans le livre à mettre en exergue tout ce qu'il racontait sur Louis-Philippe, parce que il y a de nombreux textes de Lenôtre sur la monarchie de Juillet qu'on oublie presque toujours, parce qu'on pense qu'il s'est cantonné à l'histoire du Paris révolutionnaire. C'est bien au-delà.
Et à l'histoire de la Vendée également.
Et de la Vendée, évidemment,
bien sûr. Il a beaucoup écrit.
Oui. Alors, c'était ses sujets de prédilection. Pourquoi ? Parce que c'était particulièrement dramatique comme période.
Je pense qu'il a, d'abord, il a été élevé par ses grands-mères. Ses grands-mères, elles, avaient vécu la révolution les Trois Glorieuses et la révolution de 1848. Elle a été bercée par ça. On lui racontait également que Charlemagne était passé par le château de Pépinville. Donc, de toute façon, il a dû très jeune adorer l'histoire. Mais pour lui, la Révolution française n'est pas si ancienne. Et lui considère que cette histoire de la Révolution, mais l'histoire intime en somme, celle des clubs, celle des gargotes, celle des faubourgs, n'a pas été écrite. Et c'est celle que lui entreprend d'écrire, et notamment en épluchant toutes les gazettes contemporaines de la Révolution.
Alors chacun des 11 auteurs a choisi un texte de Lenôtre. Frédéric Lenormand en a choisi un assez particulier, dont je vais vous lire des extraits. On va, à partir de là, essayer de cerner au plus près ce qui fait le génie propre de ce grand écrivain.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Franck qui nous propose maintenant sur Europe 1 la lecture d'extraits d'un texte de Gilles Lenôtre.
Mais oui, alors il y en a tellement, je m'en suis référé au choix de tous mes co-auteurs. Et alors Frédéric Lenormand, vous avez choisi, vous, un texte qui nous parle de l'intimité de Robespierre et de la famille Duplay, la famille chez laquelle Robespierre est locataire en fait. Ça, on est exactement là dans le savoir-faire de Lenôtre et dans son sujet de prédilection, c'est-à-dire le Paris révolutionnaire.
Oui, puis c'est extraordinaire, c'est le choc des petites gens qui faisaient la matière de ses livres et du monument vivant qu'est Robespierre.
Alors ouvrons les guillemets, et c'est maintenant Lenôtre qui écrit. Si les petits bourgeois parisiens, de vie sévère jusqu'alors et timorés à miracle, s'accommodèrent si bien de la Révolution et l'acceptèrent presque dès son début, c'est qu'elle apportait d'abord un amusement à cette énorme partie de la société bien privée de distraction. Ce grand déraillement, fort important pour ceux qui s'amusaient, fut pour les autres une admirable aubaine, une occasion inespérée et sans cesse renouvelée de dissipation. Le journal, les assemblées de section, la garde nationale, le club pour les hommes, pour les femmes, des motifs de sortie, de papotage, les revues, les fêtes populaires, des prétextes à toilette, 1000 portes ouvertes sur les aventures, la nouveauté, l'indépendance, le roman. Dans cette sage maison Duplay, où jamais il n'était rien arrivé, l'intrusion subite d'un étranger, jeune, célèbre, un peu mystérieux, fut un événement. La maman Duplay maugréa sans doute, encore qu'elle dût être flattée de l'ébahissement des voisins. Mais pour ses filles, quelle agitante péripétie! On imagine les curiosités, les réflexions, les chuchotements, tout en pliant la lessive ou en épluchant les légumes. Est-il levé? Oh, il travaille. Il m'a parlé. Oh, il est très bien. et les 1000 petits soins à rendre au grand homme, le repassage de ses jabots, les plats dont il est friand, les coups d'œil glissés quand il est absent dans sa chambre encombrée de papier et dont les splendeurs sont les rideaux du lit taillés par Madame Duplay dans une ancienne robe à damas bleu et fleurs blanches. La maison. Le numéro 398 actuel de la rue Saint-Honoré, lugubre aujourd'hui, avec ses bâtiments surélevés qui font du jardinet d'autrefois un puits sinistre, suintant d'humidité, était tout ensoleillé alors que ses trois corps de logis n'avaient qu'un étage, ainsi que les immeubles voisins, entourés d'immenses jardins, les Feuillants, la Conception, les Capucins, l'Assomption, qui rendaient ce bout de Paris assez semblable à la campagne. La salle à manger ouvrait sur la cour, égayée d'une corbeille de fleurs dont chacune des demoiselles Duplay cultivait un coin. Robespierre, le matin, déjeunait là avec elle d'une tasse de lait. Bien vite, entre l'hôte et les jeunes filles, l'intimité s'établit. Par les beaux jours, quand les Jacobins et la Convention chômaient, il allait avec elle herboriser à Issy, ou bien on flânait dans les allées désertes des Champs-Élysées, on rencontrait là des petits Savoyards auxquels Robespierre donnait des sous et qu'il se plaisait à voir danser. Élisabeth, avec lui, était la plus familière. Elle l'appelait son amie. Il la traitait en petite sœur et la tutoyait. Le jardinet, l'herbier, le laitage, les savoyards, les menuisiers, cette cour en fleurs où l'on respirait la bonne odeur du bois raboté, et aussi ce commerce d'amitié tendre, cette simplicité de mœurs, toutes ces choses rustiques et ces gens sensibles semblent sortir d'un album d'illustrations pour les œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Donc voilà, poser le décor avec ce style inimitable de Le Nôtre. Et ce que va raconter Le Nôtre, c'est la liaison, puis les fiançailles, puis le mariage entre Babet, entre Élisabeth, et l'un des principaux amis et collaborateurs de Robespierre, Philippe Lebas.
Oui, et puis toute la catastrophe qui va s'en suivre.
Et voilà.
C'est ça qui est bien dans ces destins de la Révolution, c'est que tout finit mal. Ça élève des destins. Ça montre que les petites gens peuvent aussi mal finir que les princesses. Il n'y a pas que Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, qui a été guillotinée. Il y a aussi ces gens dont la vie a été bouleversée, balayée par le vent de l'histoire. Et c'est ça qu'il raconte. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Et alors cette atmosphère à la fois petite bourgeoise et même, on peut dire, quasi bucolique, hein, d'une rue Saint-Honoré à l'époque encore tout à fait faubourgeoise, cette atmosphère familiale et, on peut dire, le surgissement de la grande histoire dans une famille dont elle finit par faire tout le sel et tout le plaisir, va basculer à mesure que l'histoire évidemment évolue. Et avec le 9 Thermidor, avec la chute des Robespierre, c'est la catastrophe qui s'abat. Babet apprend que son mari est en prison, il est à la prison de la Force, tout va très mal, elle se renseigne. En approchant de la prison, écrit Le Nôtre, Babet aperçoit des groupes de gens exaspérés, criant et courant, et dans l'étroite rue des Ballets, sortant du greffe de la Force, parmi la foule, elle reconnaît son mari qui vient d'être délivré. Elle saute hors du fiacre, fend la cohue, appelle Philippe. Il la voit, la rejoint, l'entraîne ainsi qu'Henriette marchant vite, suivie d'une escorte tumultueuse de badauds. Il va à l'hôtel de ville où Robespierre, décrété d'accusation par la Convention, appelle à son aide les sections armées et, tout courant, Lebas prépare sa femme à une catastrophe qu'il sent inévitable. Il l'exhorte à rentrer chez eux, lui recommande leur enfant. Nourris-le de ton lait, inspire-lui l'amour de la patrie, dis-lui bien que son père est mort pour elle. Adieu, mon Élisabeth, adieu, un remous de la foule sur la grève les sépare. Il lui cria encore « Vie pour notre cher fils, inspire-lui de nobles sentiments, tu en es digne, adieu !» Adieu, il disparaît, pris par la cohue qui s'engouffre dans l'étroite porte de la maison commune. Babet ne le voit plus, Henriette l'entraîne. Tout en marchant sur les quais, ne sachant que faire, en sanglots, elle se heurte à un cortège que le peuple applaudit, trois conventionnels en panaché, à cheval, pérore. Babet en reconnaît deux, Barère et Bourdon. Il proclame la mise hors la loi de Robespierre, de Saint-Just, de Lebas, de leurs complices. Les deux femmes ignorent ce qu'est la mise hors la loi, mais elles sentent que ce qui se passe là, c'est la mort pour ceux qu'elles aiment, et elles s'enfuient éperdues d'épouvante. Voilà une histoire totalement habitée, évidemment, on a l'impression d'y être, hein, sur les pas de cette pauvre Babet.
Oui, Le Nôtre nous explique que Babette n'avait rien compris à la Révolution. Elle habitait quand même sur le chemin des charrettes qui emportaient les gens se faire guillotiner à la place de la Concorde.
Place de la Révolution.
Oui, de la Révolution à l'époque. Mais la pauvre, son monde s'écroule. Elle a un bébé d'un mois et son mari se tire une balle dans la tête pour ne pas être guillotiné. Et la mère d'Elisabeth, qui est totalement obnubilée par Robespierre, se suicidera le lendemain de la guillotine.
C'est à la fois très triste, mais la famille Duplay a aussi profité des largesses de Robespierre, parce que Duplay était menuisier. C'est lui qui obtient différents chantiers, dont celui de l'estrade qu'il faut construire pour la fête de l'être suprême sur le bassin des Tuileries. Et puis il devient aussi membre du tribunal révolutionnaire, où il siège le moins possible parce qu'il a horreur de ça d'ailleurs. Mais il est bien payé, donc c'est quand même tentant.
Voilà tout le secret finalement de l'art, qui est celui de Le Nôtre, nous ouvrir une porte ou une fenêtre sur une histoire qui n'est plus une histoire officielle, qui n'est pas une histoire remâchée ou recuite, qui est une histoire vivante et qu'on a l'impression de voir tout simplement se dérouler sous nos yeux.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous parlons aujourd'hui sur Europe 1 de Gilles Lenôtre, le grand historien de la petite histoire.
Ah oui, c'était en tout cas cet écrivain capable de faire revivre le passé, Emmanuel de Varesquiel. Alors on avait, bien avant Lenôtre, au siècle précédent, on avait reproché à Michelet de s'approprier l'histoire pour en tirer de grandes théories. Fustel de Coulanges, notamment, va avoir une approche beaucoup... en tout cas, qu'il prétend être plus objectif. Je dis bien qu'il prétend, parce que ce qui est très amusant avec les historiens qui prétendent à l'objectivité, c'est qu'on découvre à mesure que le temps passe à quel point eux-mêmes peuvent évidemment être subjectifs. Et puis, pour ce qui est de Le Nôtre, on va lui reprocher alors de s'approprier les événements, non plus pour en tirer de grandes théories, mais pour faire du roman, quasiment. Il est un peu une sorte d'Alexandre Dumas sur source.
Oui, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut avec ces sources. On peut les tordre, on peut en effet se les approprier et ne pas les croiser, ne pas les comparer et sortir, ceci étant, l'historiographie, les méthodes de l'historien ont changé depuis l'époque de Le Nôtre à la croisée des 19e et 20e siècles. Mais il est certain qu'il instaure une sorte de dialogue très personnel avec ses personnages et avec ses récits qui relève plus de la musique de chambre que de l'orchestre symphonique. Mm-hmm. L'orchestre symphonique, on a tous les instruments et on a donc toutes les voix de l'histoire, on les écoute et on les commente. Ce ne que fait pas le Nôtre est dans le récit, il est dans la singularité et autant dans la singularité historique que dans la singularité sentimentale. Il croise ces différents fils et il en fait quelque chose qui, du point de vue de la construction, relève en effet plus du roman que de l'histoire.
Alors ce qui m'amuse, c'est qu'à l'époque où j'étais étudiant à l'école des hautes études, la grande école à la mode, c'était ce qu'on appelait la micro-histoire. Donc on faisait des séminaires de micro-histoire et moi qui étais déjà à l'époque un grand lecteur, même fanatique de Le Nôtre, je ne le disais pas parce que ça n'était pas du tout présentable devant mes chers confrères. Mais je m'amusais de voir que ce qu'on nous recommandait et ce qu'à longueur d'exposé on nous présentait, c'était des méthodes qui ressemblaient, mais alors de façon assez surprenante, aux méthodes de Le Nôtre. C'est-à-dire qu'on allait chercher dans l'archive un parcours singulier que l'on suivait et sur lequel on nous suggérait de plaquer la subjectivité du regard moderne. On est quand même très proche de ce que faisait Le Nôtre.
Ouais, c'est pas tout à fait la même micro-histoire.
Non, certes.
Parce que celle qui a été inventée en Italie, en France, dans les années 60-70, relève plus aussi du point de vue des champs, de la géographie, d'un espace chronologique particulier, d'un champ
dimension
sérielle,
etc.
Mais c'est pas grave. Le Nôtre n'est pas un historien, mais c'est pas grave.
Il n'est pas un historien au sens universitaire scientifique qu'on peut donner à
exactement.
Ce mot. Mais il est bien quelqu'un qui travaille sur l'histoire.
Mais bien sûr, il travaille sur les. Il a ses sources. Et ce qui importe le plus, c'est qu'il nous emporte.
Voilà.
Et que ce qu'il écrit marche, on le lit avec un immense plaisir. Moi, j'avais cherché pour Clémentine un souvenir d'enfance que j'avais de mes lectures de Le Nôtre, qui est une histoire, un chapitre de l'un de ses livres que je n'ai jamais retrouvé, qui est probablement pour moi la plus merveilleuse qui existe. S'agissant de la Révolution française, il avait repris un épisode vrai ou inventé, je ne sais pas, qui se passe à Lille au moment de la Terreur en 1794, où il imagine qu'un vieil aristocrate lillois, un peu planqué chez lui en pleine Terreur début 94, avait un perroquet qui évidemment était influencé par son maître et avait la mauvaise idée de chanter « Vive le roi ». Et au moment d'une visite domiciliaire du dit vieil aristocrate, les sectionnaires de Lille avaient trouvé que le perroquet était fâcheusement contre-révolutionnaire et l'avait donc emprisonné et guillotiné pour avoir avec le maître, bien entendu. Je me souviens de cette histoire comme d'une histoire absolument merveilleuse. N'oublions pas que le nôtre s'inscrit quand même dans un courant contre-révolutionnaire.
Oui, bien sûr.
On est du côté de la légende noire de la Révolution, on est du côté des personnages de la 25e heure, on est du côté des ruines et on est du côté des abîmés de l'histoire. Et il se délecte de ça, il aime ça profondément. C'est oui, son tempérament. C'est,
finalement, il a de sa formation et de son rôle de journaliste conservé le goût du fait divers. Et du reste, c'est une affaire greffée sur un très célèbre fait divers que vous avez choisi, vous, de mettre en exergue dans cette collection de textes de Le Nôtre, l'enlèvement du comte Clément de Ris, qui d'ailleurs devait inspirer par ailleurs Balzac, etc.
C'est la ténébreuse affaire de Balzac. C'est une des histoires les plus célèbres du début du consulat de Bonaparte. Ça se passe en décembre 1800, après la victoire de Marengo. Différentes versions ont circulé. Les historiens, au fond, n'ont jamais réussi à mettre la main sur la clé de l'énigme de cette affaire. Ce sénateur, donc le Sénat conservateur, c'est une institution très importante des débuts du consulat, ancien révolutionnaire.
On est à l'automne 1800 au moment de l'enlèvement. Oui,
automne 1800, est enlevé dans sa propriété aux alentours de Loches par une bande de chouans, enfermé pendant 3 semaines au fond d'une forêt et miraculeusement délivré sur l'ordre du dangereux ministre de la police de Bonaparte de l'époque, qui n'est autre que Joseph Fouché. On a donc imaginé un certain nombre de versions. L'une d'entre elles, et c'est celle dont s'approprie Balzac dans Une ténébreuse affaire, aurait consisté à dire que Clément de Ris était le détenteur de secrets conspiratoire qui aurait eu lieu au moment avant la bataille et la victoire de Marengo au cours de l'été de 1800 et qui aurait consisté à imaginer un remplaçant à Bonaparte si celui-ci avait été tué au cours de cette ultime campagne d'Italie. Et cette conspiration, évidemment, aurait été tenue entre des personnages ô combien célèbres qui étaient Fouché, Talleyrand et Clément de Ris. Il aurait donc fallu faire disparaître les papiers de Clément de Ris, d'où cet enlèvement.
Ce qui va intéresser Le Nôtre dans cette affaire, ça n'est précisément pas la dimension politique et historique, si je puis dire, de cet enlèvement, c'est le procès que vont subir un certain nombre de personnes. Alors on ne sait pas bien pourquoi on a arrêté ceux-ci plutôt que d'autres,
On l'imagine quand même un peu.
Oui.
En réalité, le personnage principal de ce récit de J'ai le nôtre est un certain colonel Viriot que personne ne connaît et qui faisait partie des 8 juges du tribunal spécial chargé de juger les soi-disant complice de l'attentat et de l'enlèvement de Clément de Ris.
On était convaincu que tout ça allait aboutir à un acquittement général, et puis il se trouve que certains des magistrats vont faire un peu de zèle, et Viriot va se retrouver seul contre tous à les défendre. On a un peu l'impression de voir 12 hommes en colère. Hein. C'est l'homme qui seul va essayer sauver les...
Viriot est présenté par Le Nôtre comme le juste. Viriot est un vieux soldat de la République. Il s'est battu en Vendée contre les Vendéens, il a été blessé à plusieurs reprises, il est en pleine promotion sociale et militaire, si j'ose dire, c'est en cela qu'il a été choisi à Angers pour siéger au tribunal spécial d'Angers, et il se trouve qu'à la différence de tous les autres juges, il va prendre la défense de ces condamnés, de ces 3 jeunes chouans qui vont être guillotinés à Angers en 1801.
Alors,
et cette défense qu'il prend va évidemment lui coûter sa carrière militaire et au fond sa vie.
Comment prend-il cette défense? Je vous propose d'écouter Le Nôtre nous le raconter lui-même dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Franck qui nous propose une nouvelle lecture sur Europe 1 d'un texte de J'ai le Nôtre, forcément.
Dès les premières audiences, l'acquittement ne pouvant faire de doute, Viriot s'était empressé de rassurer Madame de Canchy. Les témoignages se succédaient presque unanimement favorables aux accusés et les débats allaient être bientôt clos quand l'ancien conventionnel Delaunay, qui présidait la cour spéciale, imagina de convier à dîner ses juges assesseurs. On causa du procès et de son dénouement prochain, tout en reconnaissant qu'il y avait impossibilité de motiver une condamnation. Delaunay insinua qu'il serait peut-être dangereux de déplaire au gouvernement en renvoyant absous des hommes qui étaient, je cite, « ses ennemis avérés ». En prenant le café, les coudes sur la table, on tomba d'accord que si Canchy, Mauduisson et Gaudin, donc les trois accusés, n'étaient pas positivement coupables, ils n'en avaient pas moins en qualité d'anciens chouans mérités 100 fois la mort en d'autres circonstances. Et l'on se mit d'accord sur la condamnation. Viriot, indigné, essaya de plaider la cause des malheureux. Voyant que ses protestations se heurtaient à la détermination arrêtée de ne pas déplaire au terrible ministre de la police, il fut pris d'un accès de rage, frappant la table, se roulant sur les sièges, prodiguant à ses collègues les épithètes les plus injurieuses. Il se met à leurs genoux en les conjurant de sauver au moins la vie des accusés. Il sort enfin de la chambre, jurant qu'il ne se déshonorera pas en signant un pareil jugement, court chez Madame de Canchy, l'informe de ce qui se trame. La pauvre femme affolée, ne croyant pas à la possibilité de son malheur, conçoit le projet désespéré d'arracher son mari au bourreau. Elle frappe aux portes des banquiers de la ville, emprunte, souscrit des billets, réunit toutes ses ressources, quelques louis. Son idée est, en ameutant les pérailleurs et les ardoisiers du faubourg de Bressigny, de retarder l'exécution. Viriot, lui, saute à cheval, va d'une traite jusqu'au relais de la Croix-Verte, où l'attend une chaise de poste qui, dans la nuit du surlendemain, le dépose à Paris, à l'heure même où l'échafaud se dressait au Champ de Mars d'Angers. Quand, après 20 démarches vaines, chez Madame Bonaparte, chez le ministre Abrial, chez les généraux Mortier et Junot, qui tous les reçurent avec la froide circonspection des gens désireux de ne pas se compromettre, Viriot comprit que son cri de justice ne serait pas écouté, il reprit le chemin d'Angers. Lorsqu'il y rentra, les condamnés étaient morts. Quelques jours plus tard, il reçut l'avis que par décision des consuls, il était rayé des contrôles de l'armée. On assure qu'il parvint à obtenir une audience de Bonaparte et que celui-ci lui adressa cette étonnante question. « Pourquoi n'avoir pas jugé comme vos collègues ?» Et comme Viriot alléguait sa conviction de l'innocence des accusés. « Soit, fit le consul, mais la loi vous obligeait à signer le verdict. Elle ne m'obligeait pas à me déshonorer, répliqua brusquement l'officier. » Il supplia qu'on le mît en jugement, mais on se garda, comme bien on pense, de le traduire devant un conseil d'enquête. Fouché préférait le silence. Il y avait des spectres qu'il redoutait de voir évoquer. Alors j'arrête là, évidemment.
Des cadavres qui sortent du placard. Alors, ce qu'on peut imaginer, au fond, c'est que Fouché, comme le dit Talleyrand très judicieusement, a toujours les pieds dans des chaussures différentes. Il était en plein rapprochement avec les Chouans et avec les Vendéens par l'intermédiaire du général de Bourmont. Et on peut penser qu'au fond, la récupération de Clément de Ris a été faite sur son ordre par des Vendéens. Et il a voulu probablement cacher ça en désignant des victimes expiatoires.
Des lampistes.
Des lampistes qui étaient ces trois pauvres jeunes gens qui ont fini par être exécutés.
Ce que nous retenons, nous, Frédéric Lenormand, c'est ce style incroyable. Hein, quelle vivacité dans la langue et quelle envie toujours d'en savoir davantage lorsqu'on lit le nôtre.
Oui, c'est écrit avec une grande simplicité et une grande générosité dans ses textes. Il veut apporter l'histoire à des gens qui n'auraient pas forcément ouvert un livre d'histoire. Il publie ça dans la presse de l'époque, dans le plus grand journal. Et puis avec des... Et ce qui me frappe chez le nôtre, c'est qu'il a la rigueur historienne de Michelet et l'élan romantique de Barbara Cartland. Vous avez les deux dans le même
écart,
livre.
Ouais.
Vous avez deux choses pour le prix
Mais
d'une,
oui, c'est vrai, oui.
L'histoire et l'épopée.
C'est vrai. Et surtout, Franck, on est tenté d'espérer que vous les enregistriez, ces histoires, parce qu'on est suspendu au récit.
C'est vrai,
vraiment.
Ça serait une bonne idée. Nous sommes 11, on pourrait se répartir le travail, parce qu'alors Dieu sait que ça fait évidemment de longs... Et nombreux textes. D'ailleurs, ces textes ont été réédités, il faut le dire. Alors, notre ouvrage à tous, là, il paraît chez Jean-Claude Lattès, hein, ça s'appelle « J'ai le nôtre, le grand historien de la petite histoire » avec des textes choisis par Clémentine Portier-Kaltenbach, Philippe Charlier, Michel Crépu, Bruno Fulini, Adrien Goetz, Michel de Grèce, Frédéric Lenormand, Thierry Lenz, Guy Stavridès et Emmanuel de Varesquiel. Et puis, vous avez également, aux éditions Archéos en ce moment, une réédition de la plupart des grands textes de le nôtre. Hein. Alors, il y a un J'en ai plein mon bureau, hein, vrai, pour tout vous dire, je ne sais plus combien il y en a, mais j'en ai descendu quelques-uns. Alors, notamment des dossiers de police, 35 énigmes présentées par le pape de la petite histoire, La vie à Paris pendant la Révolution, La guillotine pendant la Révolution, ça c'est le premier livre hein, d'ailleurs de le nôtre. Donc tout ça, collection Petite et Grande Histoire chez Arkéos pour retrouver le nôtre. Il est dans le domaine public, donc il est édité par bien des maisons, évidemment. Mais pas tant que ça, c'est vrai qu'il faut le faire connaître et reconnaître, ce à quoi nous nous employons bien entendu. Bernard nous fait remarquer qu'on pourrait faire une comparaison avec un autre journaliste qui a beaucoup fait plus récemment pour présenter plaisamment l'histoire, plaisamment de manière plaisante, agréable. C'est Jean Duché qui a disparu en 2000. Et alors là, je suis entièrement d'accord avec Bernard. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de Jean Duché qui notamment avait écrit cette histoire de France racontée à Juliette dont il existe deux versions, une pour adultes et une simplifiée pour enfants. C'est une façon extrêmement efficace et passionnante de raconter l'histoire de France. Et puis Jean Duché s'était aussi intéressé à l'histoire de l'Occident, à l'histoire du monde. Alors lui avait évidemment des ambitions bien plus grandes que celles de le nôtre. Il prétendait à faire une sorte d'histoire totale et de philosophie de l'histoire. Voilà, j'aurais beaucoup d'ouvrages à vous citer. Évidemment, je ne peux que renvoyer nos auditeurs à la nouvelle Enquête du Sieur Voltaire. Monsieur Harouet remet ses habits d'enquêteur dans Le Diable s'habille en Voltaire. Ça vient de paraître également chez Lattès, Frédéric Lenormand.
Excellent éditeur.
Je croyais que vous alliez dire excellent roman, j'allais dire il n'est pas fâché avec lui-même. Mais cela dit, c'est vrai, vous avez raison, de temps en temps, il faut aussi savoir se décerner quelques compétences. Et là, ils sont justifiés. Emmanuel de Varesquiel, vous êtes en pleine écriture, vous aussi.
Je prépare un Fouché. C'est précisément en partie pour cela que j'ai choisi le fameux colonel Guerriot.
Oui, alors on va évidemment lire ça avec beaucoup d'attention. Vous viendrez nous en parler ici.
Avec plaisir et bonheur.
Et puis, a lieu très prochainement un spectacle, un grand spectacle dont on va vous parler. Alors, on va faire une émission sur les sons et lumières et je vais en profiter pour vous en parler. Mais du 18 avril au 7 mai prochain, a lieu ce grand spectacle sons et lumières, La Nuit aux Invalides, spectacle monumental en 3D présenté par Amaclio. On aura l'occasion d'en parler. On est tout à fait dans l'esprit de cette histoire, ce que certains appellent avec un peu de mépris le roman national. Mais moi, je trouve que le roman national n'est pas sans charme. Je l'ai souvent montré et prouvé. Merci à vous d'être venu nous parler de Le Nôtre. Vive Le Nôtre et vive l'histoire.